Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
La justice poursuit son travail et ne ralentit pas le rythme. Il faudra un an pour traiter les dossiers liés aux émeutes, nous a dit le procureur de la République, qui était notre invité ce matin. Reprise des cours pour les deuxièmes années de CAP du lycée Pétro à Titi. Ils sont accueillis à l'école Morissette de Vambay jusqu'à la fin de l'année. 68 millions de dégâts et des projets revus à la baisse. L'Institut agronomique néo-calédonien a aussi subi de plein fouet les exactions de la CCAT. En métropole, Emmanuel Macron annonce que le futur Premier ministre ne sera pas issu du nouveau Front populaire. Vive réaction de LFI qui menace toujours de lancer une procédure de destitution à l'encontre du chef de l'État. Et puis dans la page sport, le premier tour de l'US Open de tennis. 4 Français se sont hissés pour le deuxième tour du dernier Grand Chelem de l'année. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Notez que dans le magazine citoyen que vous retrouverez à midi, nous évoquerons aujourd'hui la situation du handicap en Nouvelle-Calédonie, comment les institutions et les associations en charge du handicap vivent la crise insurrectionnelle et ses conséquences, quelles sont les mesures prises par l'exécutif. Autant de questions que Gilles Ménage abordera avec ses invités. Cyrielle Cabard, la directrice du GIEP Handicap, Dépendance et bien vieillir au gouvernement. Avec Jean Saucet, le président du collectif Handicap, Jean-Philippe Roux de l'Association des diabétiques et Dominique Tribali de l'ASEA, de l'Association pour le soutien des enfants déficients. Une émission citoyenne à retrouver donc dès la fin de ce journal. Une tentative d'incendie à la trésorerie de Conné tôt ce matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agirait d'un acte criminel. Les pompiers ont été envoyés sur place, mais ils n'ont pas constaté de dégâts significatifs. Seule de la suie a été relevée par les experts présents pour relever les empreintes. Une enquête est évidemment en cours. Le procureur de la République, Yves Dupas, était notre invité ce matin. L'occasion de dresser un nouveau bilan de l'action de la justice, particulièrement soutenue depuis le 13 mai. Un véritable marathon judiciaire, nous a dit Yves Dupas, qui ne comptabilise pas moins de 2025 gardes à vue, 411 déferrements, 196 incarcérations, 258 comparutions immédiates et 558 convocations en justice. La stratégie du parquet est de poursuivre tous les auteurs, quel que soit leur degré d'implication. Et en ce qui concerne les commanditaires présumés de l'insurrection, l'enquête se poursuit, a précisé le procureur de la République.
L'information judiciaire se poursuit sous l'autorité de 2 magistrats instructeurs. Vous savez que nous en sommes aujourd'hui à 13 personnes mises en examen. Et bien évidemment, les enquêteurs, sous l'autorité de ces 2 magistrats instructeurs, poursuivent leurs investigations, visant bien sûr à exploiter l'ensemble des éléments dans ce dossier, visant bien sûr à cerner l'étendue des agissements de chacune des personnes mises en examen actuellement, et puis visant aussi à identifier d'autres commanditaires, puisque dans une organisation criminelle telle que celle orchestrée, mise en place par Christian Théin, il est possible que nous ayons affaire aussi à d'autres commanditaires qui sont peut-être un peu plus en retrait, qui ont pu dissimuler leurs agissements de manière habile, qui peuvent être des superviseurs, bien évidemment.
Quant à la théorie avancée selon laquelle la CCAT a été débordée par des bandes de jeunes excités, Yves Dupas n'y croit pas.
Cette approche n'est pas du tout conforme, en tout cas, aux éléments de notre enquête centrale. Moi, je rappellerai quand même que le 8 mai 2024, Christian Théin a fait un certain nombre de déclarations en disant « on va se mettre hors la loi ». Il va falloir s'attaquer aux banques, aux assurances, aux multinationales. Comme par hasard, 5 jours après, toute une série de structures économiques étaient visées, étaient ciblées à la fois par des pillages et des incendies. Bref, la Nouvelle-Calédonie est à genoux. Elle est à genoux d'abord au plan humain avec 11 morts aujourd'hui, des centaines de blessés parmi notamment les forces de l'ordre. Elle est à genoux au niveau économique et social, on le voit bien évidemment. Cette situation, elle relève d'un plan d'action défini par une organisation criminelle, tout simplement.
Yves Dupas qui précise que dans le cas où les gendarmes font usage de leur arme, comme à Thiot récemment, c'était le 15 août, la justice vérifie systématiquement que le cadre légal a été respecté. Quant au dossier de Saint-Louis, il est particulièrement complexe, reconnaît Yves Dupas.
C'est un dossier compliqué, j'allais dire, c'est une multitude de dossiers, de procédures. Nous progressons. La semaine dernière, nous avons interpellé l'auteur présumé de 3 carjackings. D'autres interpellations sont intervenues auparavant. Ce qu'il faut savoir, c'est effectivement que nous avons 13 personnes qui font l'objet aujourd'hui d'un mandat de recherche, donc qui sont impliquées dans des faits, de délits, de crimes sur ce secteur depuis le 13 mai. Quelques chiffres, c'est effectivement un total de 56 carjackings depuis le 13 mai sur ce tronçon, sur cette route. Et c'est d'ailleurs ce qui a légitimé de la part du haut-commissaire de la République des mesures très restrictives de liberté, parce que cette route n'était pas sûre. Et je note avec satisfaction effectivement l'appréciation du juge des référés donc administratif par rapport à ce dispositif déployé à juste titre par le haut-commissaire.
Le procureur de la République Yves Dupas, qui était notre invité ce matin sur Radio Rythme Bleu. Vous pouvez évidemment retrouver cet entretien dans son intégralité en audio et vidéo sur notre site internet. Un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction pour la Nouvelle-Calédonie. Il a été présenté ce matin par 6 membres du gouvernement collégial et cette démarche va se décliner en 3 étapes. La sauvegarde et la gestion de l'urgence, puis la refondation du modèle économique et la reconstruction. Ce plan qui va être accompagné techniquement par l'État a recueilli l'assentiment de l'ensemble des interlocuteurs du gouvernement, quelle que soit leur tendance politique. Et pour Christopher Gigès, au-delà des urgences, il va falloir changer beaucoup de choses et cela va demander des sacrifices.
On a une urgence à sauvegarder les entreprises, les associations, les salariés en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est la démarche de la partie sauvegarde de répondre au très court terme. Mais reconstruire la Nouvelle-Calédonie sur des bases qui n'étaient pas saines, ce n'est pas aussi forcément une bonne idée. Donc vraiment l'idée de ce plan, donc avec la partie refondation et reconstruction, c'est d'aller très loin dans des réformes, d'avoir un nouveau modèle économique et social, un nouveau modèle institutionnel, un nouveau modèle sociétal, pour qu'on puisse faire avancer la Nouvelle-Calédonie après cette période qui reste compliquée et qui mérite de trouver des solutions.
Ça veut dire que depuis 30 ans, finalement, la Nouvelle-Calédonie a, entre guillemets, vécu au-dessus de ses moyens et qu'il faut aujourd'hui faire des économies à tout point de vue, qu'il faut rationaliser.
Et ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus les moyens d'avoir, de financer les infrastructures que nous avions par le passé. Brûler des entreprises, casser des emplois, ça a des impacts sur, notamment sur les plus fragiles. Donc oui, maintenant, il va falloir refonder, reconstruire, relancer notre économie calédonienne. Ça passera par des mesures incitatives, des mesures d'aide au pouvoir d'achat, des mesures de soutien. Mais il va falloir recréer de la richesse pour avoir un système de solidarité qui a été à la hauteur de celui qu'on a eu par le passé.
Rationaliser aussi au niveau du fonctionnement tout simplement de la Nouvelle-Calédonie, au niveau des directions, au niveau d'un certain nombre d'organismes qui n'ont plus vocation à exister.
Oui, très clairement, on a eu par le passé la tendance à créer des directions, des établissements publics ou des commissions pour faire plaisir à un tel ou à un tel ou en fonction des différentes sensibilités. Nous n'avons plus les moyens de faire plaisir à un tel ou à un tel, donc aujourd'hui, il va falloir mutualiser des directions, rapprocher les chambres consulaires, rapprocher les régimes de retraite. Donc c'est vraiment une refondation de fond de la Nouvelle-Calédonie qui va devoir être réalisée.
Ça veut dire des sacrifices, évidemment.
Des sacrifices, mais pour mieux se projeter. C'est le but de ce plan, c'est aussi de projeter la Nouvelle-Calédonie sur des bases plus saines. Donc oui, il va falloir faire des sacrifices. Le système de santé ne va plus être le même. Le système économique ne va plus être le même. Mais on a les moyens de reconstruire une belle Nouvelle-Calédonie. On a encore des gens qui veulent s'engager dans ce pays. Et l'idée est bien de redonner confiance. Et redonner confiance, c'est offrir un cadre sécuritaire qui est rétabli. C'est offrir un cadre institutionnel qui doit être prolongé vers l'avenir et aussi un cadre économique qui est incitatif.
Des propos recueillis par Gilles Ménage. Notez que les Calédoniens seront invités à donner leur avis sur les solutions à apporter au travers d'un questionnaire en ligne qui sera ouvert à partir de demain sur le site du gouvernement. Un plan de sauvegarde, de refondation et de reconstruction sur lequel nous reviendrons en détail dans notre édition de 17h45. Pour l'instant, il n'est que 11h40. On va donc marquer une première pause dans ce journal avant de voir ce qui fait le reste de l'actualité en Calédonie mais aussi dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Chris Optique Beretti, agréé tiers payant mutuel, aide médicale, carte senior, paiement en trois fois, votre deuxième paire offerte, test de la vue, accueil, écoute, conseil. Chris Optique Beretti, 60 avenue de la Victoire. La confiance vous va si bien.
Cafard, termites, rats, pensez Formula 4D. Vos problèmes seront maîtrisés par une équipe appliquée. Formula 4D, un service de qualité avec réactivité. Info sur formula4d.com.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Il a été question de la Nouvelle-Calédonie lors du 53e sommet du Forum des îles du Pacifique qui s'est ouvert hier à Tonga. Forum qui a pour thème principal les enjeux du réchauffement climatique et ses conséquences pour les îles du Pacifique. Mais en marge de ces travaux, les trois premiers ministres des États insulaires qui devaient mener une mission d'observation du FIP en Calédonie se sont exprimés sur le sujet. Ils ont formé le vœu de trouver une solution à la crise qui secoue le territoire. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Le premier ministre des Tonga, Siaosi Sovaleni, a déclaré que, je le cite, « le forum est très sérieux dans sa volonté de trouver un moyen de désamorcer la situation en Nouvelle-Calédonie. Nous espérons qu'en marge du sommet, a-t-il poursuivi, nous pourrons dialoguer avec la France et la Nouvelle-Calédonie avant la retraite des dirigeants du forum prévue vendredi. » Le premier ministre des îles Cook et ancien président tournant du forum, Mark Brown, a rappelé de son côté que, je cite, « une partie de notre mission consistait à plaider avec force en faveur de la désescalade de la violence, d'introduire un dialogue entre toutes les parties concernées, puis à travailler sur une voie à suivre pour la Nouvelle-Calédonie. Notre vision est pour un Pacifique de paix et d'unité », a quant à lui affirmé le premier ministre des îles Fidji, Sitiveni Rambuka. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS et voici notre question du jour. Trouvez-vous normal que l'Azerbaïdjan soit présente au 53e sommet du Forum des îles du Pacifique qui se tient à Tonga? Si vous trouvez que c'est normal, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 31-46. Et puis la réponse à notre question d'hier, 60% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent ne pas être confiants dans la démarche unitaire entamée par les partisans du maintien dans la France pour préserver un projet commun dans la perspective de la reprise des discussions sur l'avenir. Ils sont à l'inverse 40% à se montrer confiants. Le lycée Petro à Titi a été saccagé pendant les émeutes et ne peut donc plus accueillir d'élèves. Certains d'entre eux ont été replacés dans différents établissements qui proposaient les mêmes formations. La ville de Nouméa a mis désormais à disposition l'école Maurice de Vambay, Mauricette de Vambay. Et ce matin, l'Officieux, c'était la rentrée d'une partie des élèves de Petro à Titi.
Oui, effectivement, ce matin, les élèves de seconde année de CAP ont repris les cours. Cet après-midi, ce sera au tour des élèves de terminale CAP et Bac Pro. Et enfin, jeudi après-midi, les classes de première Bac Pro, des demi-journées dites de prise de contact, avant que la semaine prochaine, tout le monde ne reprenne à temps plein. Les enseignants et surtout les élèves avaient hâte de retourner en cours. On écoute Jean-Luc Granier, il est le proviseur du lycée Petro à Titi.
Être à la maison, ne pas venir au lycée les premiers jours, c'est sans doute appréciable, mais très vite, les camarades manquent et puis il y a leur formation qui est quand même en jeu. Les enseignants, bon, la plupart avaient déjà fait la rentrée dans d'autres établissements, mais pas forcément dans les mêmes, donc ils sont aussi contents de se retrouver. On a du soleil, donc voilà. Aujourd'hui, la satisfaction qui règne, un esprit plutôt joyeux.
Une solution à court terme pour les élèves qui termineront leur année dans l'école primaire sans avoir accès aux ateliers. Des réflexions sont notamment en cours pour qu'ils puissent pratiquer d'ici la fin d'année scolaire. Mais Isabelle Champmoreau, vice-présidente du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge de l'éducation, confirme que les problématiques sont nombreuses.
Alors on a trois types de problématiques. On a la problématique des transports, donc on travaille avec les autorités compétentes, mais pour l'instant, et notamment pour des raisons de sécurité, le réseau n'est pas remis en place. Donc effectivement, certains élèves ont des problèmes d'accès. Notre deuxième problématique, c'est la problématique de l'hébergement, puisqu'au lycée, nous avions aussi un internat. Il a été très dégradé, donc pour l'instant, nos internes n'ont pas accès à cette solution de logement. Et la troisième problématique, ça c'est une problématique pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de trouver les fonds nécessaires pour rénover certains locaux de Petro à Titi. Et pour l'instant, nous n'avons pas de visibilité sur ce point. On a fait une demande à l'État pour avoir une aide sur ce sujet.
À noter que la rentrée a pu se faire ce matin à l'école Morissette de Vambée grâce notamment à l'opération logistique menée par le RSMA et les FANC. Il y a quelques jours, ils ont équipé les salles de classe avec du matériel récupéré au lycée Pétro à Titi.
Les réseaux internet et téléphoniques reviennent progressivement au Mont-d'Or Sud. Après 3 mois de blocage, 2 agents volontaires de l'OPT ont pu accéder à la zone par bateau avec leur matériel d'intervention. Ils ont sur place travaillé pendant 4 jours pour réparer 12 lignes fixes. Les services de télécommunication de plusieurs foyers sont donc rétablis depuis le 21 août. L'Institut agronomique néo-calédonien se relève doucement. En mai, les émeutiers de la CCAT avaient saccagé les locaux situés à Port-la-Guerre. Après 1 mois de pause, les équipes ont pu reprendre leurs activités, non sans mal, car les subventions manquent cruellement, Charlotte Coulson.
Des portes, des fenêtres et du matériel cassé, 7 voitures volées ou détruites ainsi que 2 docks entièrement brûlés. Ce sont en tout 68 millions de dégâts que l'Institut a subis en mai dernier. L'organisme de recherche est aujourd'hui dans une situation de grande difficulté financière. Il fait face à de nombreux retards de financement et n'a d'autre choix que de réduire sa masse salariale. On écoute Laurent L'Huillier, directeur général de l'IAC.
Alors les impacts directs dus à ces dégradations, c'est déjà les réparations et les vols comme je disais. Également un retard de versement de subventions des collectivités que nous ne sommes pas sûrs d'avoir en totalité. Puisque le budget annuel de l'IAC c'est environ 500 millions, essentiellement dû à des subventions des collectivités membres. C'est-à-dire l'État, la Nouvelle-Calédonie et les 3 provinces. Et nous avons une partie des subventions qui ne sont pas versées au jour d'aujourd'hui. Environ un tiers qui nous manque au jour d'aujourd'hui de ces subventions. On fonctionne encore grâce à un petit peu de trésorerie qui nous reste jusqu'à début novembre. On a réduit déjà la masse salariale et les effectifs depuis plusieurs années. Cette tendance, on l'a accentuée évidemment depuis le mois de mai. On a dû arrêter encore d'autres CDD et puis les prochains départs d'agents ne seront pas renouvelés du tout, ça c'est sûr. Et on essaye même d'accélérer et d'accompagner les prochains départs dans les prochains mois pour réduire encore cette masse salariale.
Ils sont aujourd'hui 46 à travailler à l'Institut et ne baissent pour autant pas les bras. Les équipes ont pu reprendre leurs activités après 1 mois de pause. 30 projets étaient en cours avant les exactions du mois de mai et sont aujourd'hui maintenus.
S'agissant des projets, aujourd'hui ils sont tous maintenus en cours. On n'a pas l'intention de se désister, de se désengager. On a la volonté et on s'organise pour maintenir et continuer ces projets. On a même l'intention de continuer à répondre à des appels à projets. On vient de clore par exemple, hier nous avons fait une restitution à la province des îles sur l'inventaire des populations de Santal sur les îles Loyauté. L'IAC existe depuis longtemps, ça fait 25 ans environ. Hein. La création de l'IAC remonte à 1999, née d'une volonté des collectivités fondatrices qui ont voulu la création de l'IAC. Il n'y a aucune volonté des membres affichée au jour d'aujourd'hui pour dissoudre l'IAC et quitter l'IAC. Voilà, donc on est dans une période d'adaptation à ces contraintes pour espérer rebondir assez vite.
Et rappelons que l'Institut travaille actuellement sur des projets tels que l'adaptation des cultures et des pratiques agricoles face au changement climatique. Il développe également un vaccin contre la tique du bétail. Son importance dans le développement du monde rural est donc plus que reconnue.
La foi met l'eau à l'honneur à l'occasion d'une semaine mondiale qui lui est consacrée, organisée chaque année à Stockholm. Cet événement vise à discuter des différents enjeux autour de l'eau et à se tourner vers une agriculture raisonnée. En Nouvelle-Calédonie, ces actions sont relayées par le Conseil de l'eau de la foi. Le thème cette année est l'eau pour un avenir pacifique et durable. Régis Dufieux est le président du Conseil de l'eau et décrit une semaine d'une grande importance pour l'avenir du territoire et sa pérennisation.
Nous, l'objectif, c'est de ne pas s'endormir sur les acquis. Hein. C'est d'être là pour rappeler aux institutions plusieurs choses. Que nos captages, ils sont dans un mauvais état, on ne fait pas grand-chose. Les feux, ils détruisent le pays, donc la ressource en eau. L'eau agricole, il faudrait y réfléchir pour qu'elle soit mieux utilisée ou peut-être mettre en avant des projets d'avenir, des grands projets où vraiment il faudrait faire des maillages entre les régions pour amener l'eau agricole là où on n'a pas d'eau. Et donc les agriculteurs, ils ont des grandes surfaces de terrain, mais c'est pas mis en valeur parce qu'il manque de l'eau. Et je pense qu'on pourrait faire aussi des maillages et emmener de l'eau dans des régions où il n'y a pas assez d'eau.
Une projection du documentaire « Les combattants du feu » du WWF va se dérouler cet après-midi à 14h à La Foix, l'ouverture de cette semaine. L'entrée est libre et gratuite pour toutes les activités proposées pendant les jours qui viennent. Le programme complet de cette semaine de l'eau est à retrouver sur la page Facebook de l'événement. Il est 11h50. Dans un instant, l'actualité en métropole. Emmanuel Macron confirme qu'il n'y aura pas de Premier ministre issu du nouveau Front populaire.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'Infomag, on retrouve Jean-François Baudin.
Pour l'actualité en métropole, et il n'y aura pas de gouvernement dirigé par le nouveau Front Populaire. Après 2 jours de concertation avec les représentants des groupes politiques à l'Assemblée, la décision a été annoncée par Emmanuel Macron par voie de communiqué. Le chef de l'État met en avant la stabilité institutionnelle pour justifier ce choix. On sait donc qui ne sera pas Premier ministre, mais on ne sait pas encore qui le sera. En tout cas, cette décision du chef de l'État fait vivement réagir le nouveau Front Populaire. Manuel Bompard s'est exprimé après cette décision. Le coordinateur national de la France Insoumise confirme que son parti entend lancer une procédure de destitution à l'encontre du chef de l'État.
C'est un coup de force antidémocratique tout à fait inacceptable. Et en démocratie, il n'existe pas de droit de veto pour le président de la République face à une décision libre, large des Françaises et des Français. Non seulement, bien évidemment, nous n'irons pas participer à de nouvelles tentatives de consultation, parce qu'il n'y a pas besoin de consultation, parce que les Françaises et les Français ont déjà dit leur mot. Mais par ailleurs, je vous le dis, nous avions prévenu, nous avions lancé un avertissement. Il est évident que ce soir, nous continuons à engager la voie de l'utilisation de l'article 68 de la Constitution pour la destitution du président de la République, parce que par cette décision, en vérité, il usurpe les pouvoirs qui sont les siens, puisqu'il ne tient pas compte du résultat des élections législatives.
En attendant, aucun nom n'est donc avancé pour Matignon. Emmanuel Macron va lancer un nouveau cycle de discussions avec les groupes parlementaires. Les représentants du nouveau Front Populaire, vous l'avez entendu, ont annoncé qu'ils n'y prendraient pas part. Pas de gouvernement dirigé par le nouveau Front Populaire, c'est une bonne nouvelle pour les patrons. Le MEDEF tient en ce moment les rencontres des entrepreneurs de France, ex-université d'été du MEDEF. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a toujours pas de Premier ministre. Or, les entrepreneurs ont besoin d'un cap politique clair et de stabilité, estime Alain Di Crescenzo, le président de CCI France.
Maintenant, un gouvernement, des réformes, et sur les entreprises de 3 à plus de 50 personnes, 13% à 15% des entreprises nous disent qu'elles ont même l'intention de limiter leurs effectifs, c'est-à-dire de licencier.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. Décidément, on parle beaucoup de la Grande Motte en ce moment. Cette station balnéaire de l'Hérault vient de connaître un nouveau drame. Hier soir, pour nous, une fusillade mortelle s'est déroulée à la sortie d'une boîte de nuit. Des hommes ont ouvert le feu à l'arme automatique sur une voiture à l'intérieur de laquelle se trouvaient 2 autres personnes. L'une de ces personnes a été tuée, l'autre grièvement blessée. Selon toute vraisemblance, c'est le rappeur marseillais SCH qui était visé. Il venait de donner un concert dans une boîte de nuit de la Grande Motte et c'est sa voiture qui a été visée. Mais le rappeur avait déjà regagné son hôtel. Et puis il y a 2 jours, c'est la synagogue de la Grande Motte qui a été visée par un attentat. Le principal suspect, un Algérien de 33 ans, a été blessé lors de son interpellation, mais il est sorti de l'hôpital pour être entendu par les enquêteurs. Et on en sait un peu plus sur son profil. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Nous savons qu'il s'agit d'un Algérien de 33 ans arrivé en France via l'Espagne en 2016. C'est la naissance de son enfant sur le sol français qui lui permet d'acquérir 3 ans plus tard un titre de séjour provisoire. Il était donc en situation régulière. Inconnu des services antiterroristes, ses seuls antécédents sont des délits routiers, conduite sans assurance ou encore consommation de drogue. D'ailleurs, selon le vice-président du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, son comportement avait posé problème dans une mosquée de Nîmes.
Il venait à un moment donné, il y a quelques années, prier à la mosquée de la paix. Et les fidèles, ils ont eu à se plaindre de lui parce que ce monsieur consommait du stupéfiant et qu'on lui a fait comprendre gentiment que ce n'était pas sa place. Il n'a pas créé de difficultés, il n'a pas été violent. Et après, naturellement, il s'est éclipsé et est revenu plus à la mosquée.
Il était aussi sans emploi et connu, selon Abdallah Zekri, pour de la vente à la sauvette et du squat d'appartements vides dans le quartier Pise 20 à Nîmes.
Il est 11h et bientôt 55 minutes. On va refermer ce journal dans un instant avec la page sport et on retrouvera ensuite le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Du 25 au 29 août, c'est la semaine de l'eau. Rejoignez-nous pour célébrer et protéger cette ressource précieuse. Participez au quiz eau sur la page Facebook d'Aquanor et gagnez plein de cadeaux. Aquanor, l'eau qui nous unit. Savez-vous que des appareils propres utilisent moins d'énergie ? Pensez à nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de porte de votre lave-vaisselle et à dépoussiérer régulièrement la grille de votre frigidaire ainsi que vos lampes et luminaires.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudet, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Les sports avec du tennis, l'US Open est le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année et il a débuté cette nuit pour nous, Léo Fichou.
Oui, 21 Français étaient en lice au premier tour du tournoi américain, 14 hommes et 7 femmes et ça passe pour 4 d'entre eux. Gaël Monfils, Hugo Humbert, Alexandre Muller et Diane Paris se sont qualifiés pour le deuxième tour. En revanche, c'est déjà terminé pour 6 autres. Océane Dodin, Varvara Gracheva, Chloé Paquet, Kylian Jacquet et Giovanni Mpeci-Péricard et Hugo Grenier sont éliminés. 3 Français sont actuellement sur les cours, Arthur Rinderknecht, Arthur Cazot et Clara Burel.
En cyclisme, c'était jour de repos sur le Tour d'Espagne. Après une semaine particulièrement éprouvante sous de fortes chaleurs, le peloton a pris la direction du nord-ouest de l'Espagne à Vigo pour la première journée de repos. Avant la 10e étape entre Ponta Arenas et Bayona, longue de 160 km, et c'est une étape de montagne avec montée au début de l'étape et 3 cols en fin de journée. Au classement général, Ben O'Connor est toujours en tête avec 3 minutes 53 d'avance sur le grand favori Primoz Roglic et 4 minutes 32 sur Richard Carapaz. Le premier français David Gaudu est 10e à 6 minutes 32 du leader. 350 athlètes ont participé en binôme au Tahuati Ferry Swimrun à Moorea. Et à l'arrivée, ce sont des Calédoniens qui se sont imposés, Léo.
Oui, malgré une météo difficile avec beaucoup de vent, les athlètes se sont élancés depuis le Tahuati Ferry. Deux courses étaient au programme, une course XL de 35 km et une course S de 13 km. Le swim and run, c'est donc une alternance entre de la natation et de la course à pied. Et sur la course renne, c'est un binôme calédonien qui s'est imposé, Julien Delrieux et Alexandre Bressy. Ils ont rallié l'arrivée en 4 heures, 5 minutes et 21 secondes. Une course difficile, mais surtout une bonne surprise pour le duo.
C'était un peu compliqué le courant, on s'attendait pas à ça parce que pour l'instant nous on nage uniquement en eau douce par Calédonie, donc il n'y a pas de courant, c'est des lacs, c'est tranquille, donc ça perturbe un peu au début et on a eu un peu peur de ne pas réussir à tenir les Tahitiens qui sont plus habitués, forcément c'est leur terrain. Mais voilà, mon partenaire qui est bien plus solide que moi, je pense que ça se voit, a fait un job de malade et on a réussi à être distancé et on finit premier, donc c'est une super surprise et une grande joie pour nous deux, c'est un grand bonheur.
Autre sport en plein air, le prochain rendez-vous sera donc avec le Yala Trail à Dumbéa pour les amateurs de courses en pleine nature.
On termine avec un mot de tennis sur le territoire. C'est aujourd'hui les dernières finales de l'Open du Receiving. La soirée démarra avec la finale double messieurs à 18h. Thomas Buisson et Alexandre Miro seront opposés à Pierre Drouet et Stéphane Johnston. Dans la foulée à 19h30, finale double mixte avec de nouveau Alexandre Miro, cette fois-ci associé à Lysiane Motone-Kiriae qui a été finaliste du double dames. Ils affronteront la paire composée de Stéphanie Liluccio et Frédéric Stolz. Il est 11h59, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous dans un instant, comme chaque mardi, c'est le magazine Citoyen. Gilles Ménage et ses invités vont parler aujourd'hui de la situation du handicap.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.